Voici le journal de Valentin Bertrand. Bonjour Valentin.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'armée israélienne prépare sa riposte après l'attaque iranienne lancée dans la nuit de samedi à dimanche. Un risque d'embrasement pour la région et un déchirement pour les juifs d'Iran installés dans l'État hébreu. L'un d'eux témoigne en début de journal.
Après 10 ans au pouvoir, Narendra Modi part grand favori des élections législatives en Inde, malgré sa main de fer sur la politique intérieure.
Le compte épargne-temps universel, la reconversion professionnelle, deux propositions qu'on pensait enterrer la semaine dernière avec l'échec des négociations sur l'emploi des seniors. L'UDP invite aujourd'hui les partenaires sociaux à reprendre les discussions. Marguerite Caton, votre question du jour.
Les jeunes sont-ils prêts à faire la guerre?
Ce sera juste après ce journal. Les appels de nombreux États, dont les États-Unis, à la désescalade n'ont pas franchi la porte du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou. Le chef de l'armée israélienne promet une riposte à l'attaque massive menée le week-end dernier par l'Iran contre Israël. Pas de précision sur le calendrier ni la méthode, mais une annonce suivie de près par les juifs d'Iran. Ils sont nés dans le pays et ont fui en Israël, surtout lors de la révolution islamique. Ils sont actuellement entre 20 et 30 000 selon les estimations. L'un d'entre eux s'est confié au micro d'Ajra Mohammad.
De son enfance passée à Nahavand, cette ville au nord-ouest de l'Iran, Eli Cohen en garde quelques souvenirs précieusement conservés, comme ces photos jaunies par le temps.
C'est mon père et ma mère. Et ça, c'est le père de ma mère. Il était docteur de toute la commune. Je me rappelle de Téhéran aussi. J'y allais avec mon père. Je me souviens des voisins. C'était des gens bien.
Il a quitté l'Iran à l'âge de 6 ans, avec ses parents qui rêvaient de s'installer à Jérusalem, terre sainte pour ses juifs. Un départ à l'époque choisi et non pas contraint. C'était avant la révolution islamique.
Nous ne nous sommes pas enfuis. On est partis d'Iran à l'époque du Shah. Les relations étaient bonnes et il était bon avec les juifs, les musulmans, les chrétiens. Et il entretenait de très bonnes relations aussi avec Israël.
Mais les choses ont bien changé depuis. Iran et Israël devenus des ennemis irréconciliables. L'attaque lancée par les Iraniens le week-end dernier en est une preuve supplémentaire, une blessure de plus pour Eli Cohen.
C'était vraiment très triste. J'avais les larmes aux yeux et maintenant ça m'émeut d'en parler. Ça m'embête vraiment parce qu'on aime les Iraniens. On n'a pas de problème avec eux. Je suis un patriote israélien, juif. Mais si je vois qu'Israël riposte, attaque et que des Iraniens vont mourir, ce sera vraiment très triste pour moi.
Aujourd'hui, à 79 ans, il a toujours le même rêve.
Je veux aller en Iran avant de quitter ce monde. Si aujourd'hui il y a la paix entre Israël et l'Iran, j'achète un billet et je pars tout de suite.
Eli Cohen nous confie prier chaque jour pour cela, pour cette paix entre ce pays qu'il a vu naître et celui qui le verra partir.
Témoignage recueilli à Tel Aviv par Ajra Mohammad, Sandrine Malon et Alexandra Vardy. Pendant que les Israéliens regardent en direction de l'Iran, les combats continuent et s'intensifient même dans la bande de Gaza. Deux divisions de l'armée israélienne viennent d'arriver à Rafah, cette ville frontalière avec l'Égypte où se sont massés des civils. De quoi raviver les craintes d'une opération militaire imminente, Alice Froussard.
À Gaza, il y a encore des bombardements, des tirs d'artillerie. La guerre n'a pas cessé et les Palestiniens redoutent qu'elle ne s'accélère depuis les dernières prises de paroles israéliennes. C'est en tout cas ce qu'estime Fares, un déplacé de Gaza.
L'attaque de l'Iran, ce n'est pas vraiment ce qui nous importe. Nous, on veut juste retourner dans nos maisons. Nous sommes déplacés. On attend de voir ce qui va se passer dans les prochaines heures, voir si Israël répond à l'Iran ou s'ils essaient juste de détourner l'attention d'une attaque prochaine sur Rafah.
Israël, en rappelant des réservistes, fait ainsi planer à nouveau la menace d'une attaque sur Rafah, cette ville où s'entassent plus d'un million et demi de déplacés. Une guerre psychologique de plus, confie Aya, 25 ans.
Il n'y a plus aucun endroit sécurisé ici. Je pense que l'armée a vraiment en tête ce plan de nous faire partir de toutes les villes. Rien ne sera utile pour nous. Il ne reste plus qu'à prier, c'est tout.
Certains Gazaouis craignent surtout le timing, estimant que les Américains n'arrêteront pas Israël sur deux fronts, celui mené à Gaza et celui mené sur l'Iran.
Alice Froussard.
7h05 sur France Culture, la suite du journal de Valentin Bertrand. Plus de 2 milliards d'euros récoltés pour la population soudanaise.
La somme a été annoncée hier soir à l'issue de la conférence humanitaire internationale organisée à Paris. Un an après le début de la guerre civile au Soudan, le pays frôle aujourd'hui la famine. Et les besoins sont si importants qu'il faudrait, selon l'ONU, au moins 4 milliards, deux fois plus, pour couvrir les besoins des civils. Dernière ligne droite pour la campagne des élections législatives en Inde. À partir de vendredi, 970 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le scrutin va durer 6 semaines. Les sondages prédisent une victoire écrasante du camp de Narendra Modi. Le Premier ministre pourrait alors briguer un troisième mandat. Depuis son arrivée au pouvoir il y a 10 ans, Narendra Modi a ouvert le pays sur la scène internationale, mais il a aussi imposé un régime autoritaire. Le reportage de notre envoyé spécial en Inde, Valérie Crova.
Le 2 février dernier, Harsh Mandor a vu débarquer chez lui des agents du CBI indien, l'équivalent du FBI américain. Ce n'est pas la première fois, ironise cet homme de 68 ans, qui a consacré sa vie à la lutte contre le communautarisme.
Je suis accusé d'incitation à la haine, de blanchiment d'argent, d'irrégularité financière. En Inde, les hindous croient en une seconde vie. Je pourrais donc passer toute cette vie et la suivante en prison si j'étais coupable de tous ces crimes.
Ce disciple de Gandhi dénonce le climat de peur instaurée par Narendra Modi qui souffle sur les braises du nationalisme hindou.
Il y a une tentative de faire taire la dissidence, comme le font les dirigeants autoritaires dans le monde entier. Sauf qu'ici, c'est associé à une idéologie visant à transformer l'Inde en une Inde très différente du Mahatma Gandhi, lutte qui est née de l'égalité des droits.
La chasse aux sorcières est telle qu'Harsh Mandor a de plus en plus de mal à publier ses articles en Inde, ce qui ne le décourage pas.
Je ne veux pas d'un pays marqué par l'inégalité, la peur et la haine. Je veux un pays juste et bienveillant. C'est vraiment une bataille pour laquelle il faut être prêt à aller en prison et même à donner sa vie.
Son temps, il l'emploie actuellement à l'écriture d'un livre sur la montée du nazisme en Allemagne.
Valérie Crova avec les moyens techniques de Fabien Gosset.
7h07, la suite du journal de Valentin Bertrand. Mayotte se prépare à une nouvelle opération policière d'ampleur.
Selon nos informations, l'opération Wambuchu 2 doit se débuter ce matin, un an après la première intervention au cours de laquelle 25 000 personnes ont été expulsées et plusieurs bidonvilles détruits. Cette fois, un bateau de la marine nationale sera déployé pour lutter contre l'immigration illégale venue des Comores. Mais sur l'île, le bilan de l'opération est aussi contesté pour le manque de solutions apportées aux personnes délogées. Une semaine après l'échec des négociations sur l'emploi des seniors, un syndicat refuse de clore le dossier. C'est l'UDP, l'Union des entreprises de proximité, qui appelle les autres syndicats et le patronat à revenir autour de la table des négociations au programme Le compte épargne temps universel et la reconversion professionnelle. Le MEDEF a d'ores et déjà décliné l'invitation, car Wafia Kenich, l'initiative n'a pas plu.
Une initiative qualifiée de déloyale par le MEDEF dans un communiqué, un texte, une fois n'est pas coutume, assez virulent. L'organisation patronale majoritaire a du mal à avaler la pilule de cette ouverture d'une négociation jugée inconcevable. C'est un crime de lèse-majesté, explique-t-on à l'UDP. Le MEDEF n'a pas l'habitude qu'une autre organisation prenne la main. C'est pourtant ce que fait l'Union des entreprises de proximité qui souhaite négocier avec les organisations syndicales au sujet du compte épargne-temps universel, un CETU qui n'existe pas dans les petites entreprises. Pour l'UDP, c'est un moyen de créer de l'attractivité dans les métiers de l'artisanat qui manquent de bras. Ce qui a aussi décidé l'organisation patronale, c'est l'attitude du MEDEF la semaine dernière. Un proche de l'UDP me confie, il y avait une vraie volonté du MEDEF de ne pas aboutir. Il ne voulait pas bouger une virgule au texte, c'était même de la provocation à l'égard des syndicats de salariés. Quant à la CPME, selon l'UDP toujours, elle se contente de suivre le MEDEF. Les syndicats l'avaient aussi regretté la semaine dernière, il n'y a pas eu de discussion sur le fond du projet du CETU. Une invitation a été envoyée aux syndicats et au patronat pour venir aujourd'hui discuter d'un accord sur le compte épargne-temps universel. Si les 5 organisations syndicales représentatives et l'UDP signent, le MEDEF peut s'y opposer. Mais Le gouvernement va de toute façon faire un projet de loi sur le CETU. Ce que souhaite l'UDP, c'est que la ministre du Travail s'inspire de cet accord trouvé avec les syndicats pour rédiger sa loi. Dans ce cas-là, le MEDEF ne pourra pas intervenir puisque, de son côté, il n'a fait aucune proposition sur le sujet.
Les libraires et les commerçants dénoncent régulièrement la concurrence exercée par Amazon ou AliExpress. Mais depuis hier, c'est Emmaüs qui s'attaque aux géants du e-commerce. « Tous nos livres se valent », écrit l'association dans une campagne de communication sur les réseaux sociaux. Depuis le début de l'année, ses ventes de produits d'occasion sont en forte baisse sur son site, label Emmaüs, moins 20%, une baisse surtout marquée sur les produits culturels comme les livres. Et Estelle Caméraire, l'association appelle donc l'État à favoriser la seconde main par rapport au neuf.
Label Emmaüs ne veut pas culpabiliser le consommateur, mais bien sensibiliser pour rappeler l'importance d'une économie solidaire. Maud Sarda, cofondatrice de la boutique en ligne, se désespère devant les promotions et les prix d'Amazon qui sont trop peu régulés selon elle.
Forcément, le consommateur, de manière générale, il va continuer à préférer acheter du neuf, si c'est moins cher, ou le même prix que de la seconde main. Alors même que parfois les produits sont moins durables qu'en seconde main. Mais ça, les pratiques, elles n'ont pas encore assez évolué.
Maud Sarda parle également de modifier la loi Lang sur le prix unique, en particulier pour éviter le gaspillage des invendus neufs, qui ne peuvent pas être bradés pendant au moins 2 ans après leur publication. En 2022, 14% des livres produits en France ont été détruits.
Nous, ce qu'on propose, c'est de réfléchir à une évolution à la marge de la loi qui permette de flécher les invendus neufs vers le secteur de la solidarité, uniquement ce secteur-là, qui n'est pas une concurrence pour le monde de l'édition. On contribuerait aux droits d'auteur, on serait très heureux d'y contribuer. Pour le coup, si on veut que ce soit possible, si on veut arrêter ce gaspillage insensé, il faut faire évoluer la loi, on ne peut pas faire autrement.
Contacté, le syndicat national de l'édition n'est pas favorable à cette solution. Modifier la loi Lang serait trop risqué et le fléchage des invendus est une mauvaise idée, selon le syndicat. Si les livres ne trouvent pas preneur en librairie, il n'y a aucune raison qu'ils intéressent davantage le public d'Emmaüs.
Estelle Caméraire. Les coraux blanchissent à une vitesse inquiétante. L'agence américaine d'observation océanique alerte sur un nouvel épisode de décoloration massive, le deuxième en 10 ans, dû au réchauffement de plus en plus rapide des océans. Plus largement, il y a aussi l'acidification, la pollution, la surpêche. Tous ces facteurs sont liés aux activités humaines. Depuis Athènes, en Grèce, où se tient depuis hier le sommet Our Ocean, des scientifiques du monde entier appellent donc à l'unisson à mieux les protéger. Parmi eux, Joachim Claudet, il est directeur de recherche au CNRS. Et il le dit clairement, notre vie future dépendra de la santé des océans.
On a absolument besoin d'un océan en bonne santé pour notre mode de vie. Que ce soit pour la pêche, que ce soit pour notre bien-être, que ce soit pour le secteur économique, pour le secteur culturel, on a besoin d'un océan en bonne santé. Toutes les activités de l'océan, à part peut-être le trafic maritime, toutes les autres ont besoin de biodiversité pour se réaliser. Et donc, il faut comprendre que la conservation de la biodiversité n'est pas à un bout du gradient où il y aurait d'un côté la conservation et de l'autre le développement. On a besoin de la conservation de la biodiversité pour le développement durable. On a besoin de la conservation de la biodiversité pour la pêche. Et les aires marines protégées qui marchent, celles où il y a de la protection intégrale, celles où il y a des zones de non-prélèvement, les premiers bénéficiaires en sont les pêcheurs, une fois que ça marche. Mais ça prend un peu de temps. Donc, il faut pouvoir compenser ce coût sur le court terme parce que ces zones de protection intégrale prennent un peu de temps avant d'être efficaces.
Propos recueillis par Catherine Pétillon qui reviendra à 7h25 dans le reportage de la rédaction sur l'un des leviers pour protéger les océans, ce sont les aires marines protégées. La météo avec encore une succession d'averses sur le nord-est et aussi ce matin sur le sud-ouest. Le long de l'Atlantique, le soleil et le ciel s'éclaircissent. Il est totalement dégagé le ciel au bord de la Méditerranée. Les températures, elles sont comprises ce matin entre 4 et 9 degrés sur les deux tiers nord, entre 8 et 16 plus au sud, et cet après-midi de 11 à 16 en général et jusqu'à 24 degrés sur la Côte d'Azur. C'est la fin de ce journal et c'est à vous Guillaume Erner.
Merci Valentin Bertrand et dans quelques secondes, la question du jour de Marguerite Caton, les jeunes sont-ils prêts à faire la guerre ?